France Inter.
Avec Leïla Kadoumidadi, avec Lisa Delmoitié, Mélodie Fontaine, Camille Lavard, Tanguy Pastureau, Daniel Morin.
Coucou Camille.
Et notre invité Alex Lutz. Bonjour Alex. Nous allons évoquer ce nouveau film de Pascal Bonitzer qui est au cinéma demain. Et que j'ai adoré, je vous le dis immédiatement, comme ça on va gagner du temps sur...
Voilà, merci.
Salut. Merci.
Et à ceux qui disent, oh, il y en a marre, vous recevez des invités, c'est toujours dans la flatterie, c'est toujours pour dire que c'est bien.
Alors, j'ai le droit de dire ce que je veux. Hein.
Petit un, on a le droit.
J'aime pas l'émission.
Et petit deux, on n'invite pas les gens qu'on n'aime pas.
Voilà, hier, j'ai dit des saloperies sur Alex Lutz, en même temps.
C'est vrai. Voilà.
Oui. C'est bien, c'est dire que c'est complètement objectif aujourd'hui.
Voilà. Non, mais dire qu'Alex Lutz est un enfoiré, c'est une chose.
Ça, c'est
le
une
film
chose.
Est un très et bon film. Film.
Voilà,
c'est ça la nuance, voilà, tu vois. Il faut distinguer l'homme
de
et
l'artiste.
L'œuvre.
Voilà. Toujours compliqué cette phrase derrière.
Ouais, c'est ça. Reconnaissez donc ce morceau.
Daniel Dutronc.
Oui.
Ça
ne lui pas.
Ok. Ouais.
C'était le générique d'Arsène Lupin, Jacques Dutronc, bien joué. Et là,
Daniel.
Daniel.
Trop tard,
Camille.
Non, pas pour
vous. C'est exactement ce que j'avais fait.
C'est pas Michel.
Mais quoi,
Gilbert. Il avait repris le jeu de Michel à Star Academy. Ça peut être compliqué au niveau du
rôle.
Donc on est avec un cambrioleur, on est avec un voleur, vous avez compris le thème, et là...
Mon cher parent,
Léla,
je Louane, parce que j'ai pas compris le titre, c'est Je vole.
Je n'enfuis pas, je vole.
Une chanson de Sardou.
Oui.
Comprenez bien,
alors c'est pas exact, ce sont pas exactement les mêmes paroles.
Ah bon?
Non.
Ah bon?
Sans fumée, sans alcool.
Bah comment ça?
Bah là au début oui, mais après ce sont pas les mêmes paroles.
J'en parle à
Michel. Écoute, j'ai une autre émission où je suis beaucoup sur les paroles. Je veux dire, c'est pas toujours.
Ah oui, c'est vrai.
Fais-lui confiance.
Au moins pour ça. Et là,
Tanguy.
What?
Pardon. Je suis parti tout seul. Mais si, c'est Renaud, petit voleur.
Exact.
Tour et puis sans bon.
J'allais dire la fille.
Barreau, garrot, une corde, à bientôt.
Qui chante ça?
Leïla.
Oui.
Non, Camille. Olivia Ruiz, la petite
jolie,
voleuse.
La petite voleuse.
La petite voleuse n'a qu'une loi. Ce qui est à toi est à moi.
Vous êtes fort.
On est en forme.
Mais je vois, ouais. Qui donc chante ce titre-là?
Leïla Johnny.
Il a travaillé avec lui.
Ouais. Ah.
Daniel Lavour, Tanguy.
Aznavour.
Bien joué, Tanguy. Au voleur. Au voleur.
Ah oui, ça
les
c'est clair.
Voleur, ouais.
Un point pour Leïla, un point pour Camille, deux pour Daniel, deux pour Tanguy. Tout se joue là-dessus. Trois points et la victoire. Qui chante ça?
Oh.
Bah oui, mais il commence pas.
Si, si, ça arrive, attends.
Tu arrives quand?
Ah, deux secondes.
C'est Camille?
Ah oui, c'est ça, ressemblait à ses débuts de chanson.
Daniel? Salvador.
Henri Salvador, les voleurs
voilà.
Victoire de Daniel Morin, voleur.
Quel homme. France Inter, la bande originale. Avec Nagui et Leïla Kadour.
J'ai admiré là.
Alex Lutz avec Léa Drucker, Nora Hamzaoui, Louise Chevillotte dans ce film de Pascal Bonitzer, qui est une histoire vraie, je tiens à le dire dès le début, parce que moi je ne m'en suis rendu compte qu'après la projection. Je ne sais pas si je l'aurais vécu de la même manière en le sachant dès le début, mais c'est assez incroyable de savoir que c'est une base en tout cas vraie.
C'est vraiment une base, parce que Pascal Bonitzer revendique vraiment l'idée d'avoir construit, cousu toute une histoire de fiction là-dessus. Mais oui, c'était un fait divers où un Egon Schiele, ce tableau-là d'ailleurs, a été retrouvé.
C'est pas les tournesols.
Les tournesols. Et c'est d'ailleurs une œuvre hommage au tournesol de Van Gogh, mais qui sont encore plus abîmées. Tout ça, c'est une évocation de la de une vision de la guerre et de voilà.
C'est toujours plus abîmé chez Gonchi.
C'est de toute façon plus abîmé. Et voilà. Et donc ce tableau d'art dégénéré
d'un peintre autrichien qui a été pris par les nazis.
Pris par les nazis
et un peu négligé même par les nazis.
Ah bah plus que négligé, c'est-à-dire que vraiment voilà, ils avaient comme on sait, comme ils étaient sympathiques, ils avaient classifié l'art comme ils classifiaient tout, et donc
l'art dégénéré.
Et c'était ce qu'ils appelaient l'art dégénéré, parmi les plus grands maîtres reconnus aujourd'hui. Voilà, et donc ces œuvres, ben certaines ont évidemment disparu parce qu'ils les traitaient pas comme les collections que se fantasmait Hitler avec son fantasme d'une espèce de musée millénaire. Voilà, et donc ces œuvres se sont baladées, et donc celle-ci s'est retrouvée dans une maison d'une famille très très modeste à Mulhouse, et voilà. Et le commissaire Priseur qui l'a découvert n'y croyait pas.
Là, on est encore dans la vérité, là où ça devient une fiction, c'est la manière dont un cabinet d'experts dont vous faites partie s'empare ou se retrouve avec ce dossier grâce à une avocate locale jouée par Nora Mzaoui. Pardon, que vous retrouvez votre ex-femme qui est également experte, jouée par Léa Drucker, mais qui est par Mons et par vous, entre la Suisse, la France et l'Allemagne, elle voyage énormément. On sent que on est dans des sphères
du marché de l'art
où finalement on se demande s'il y a encore des émotions vécues devant une toile, ou s'il y a un intérêt purement mercantile. Celle qui a des émotions, c'est Louise Chevillotte, qui est une stagiaire dans votre bureau, qui se sent totalement méprisée par votre manière de lui parler.
Et il faut dire que, bah oui, je suis pas très sympa au départ.
Oui, non, c'est comme,
pas le plus sympa
comme,
là,
nous,
la...
comme ouais. Daniel avec ses assistants, c'est un peu
un
pareil.
Peu, oui, c'est ce que je me suis dit. Quand il a dit du mal de moi hier, d'ailleurs, quand j'ai croisé dans les couleurs, je me suis dit, ah bah tiens, c'est marrant, ça me fait penser au personnage.
C'est ça, un peu odieux. Et puis, elle est aussi en proie à des problèmes personnels, des problèmes familiaux, des problèmes de reconnaissance dans sa place dans la société également, de problèmes avec le mensonge, c'est-à-dire qu'il y a le côté faussé dans le tableau, il y a le côté
mythomane de la stagiaire. Ah ouais. Oui, mythomane, après perdu. Ah. Et puis, c'est une proposition de tableau d'une jeunesse paumée aussi à travers ce personnage-là, que je trouvais bien, parce qu'on voit bien comment elle se... Tout le monde se déplace dans ce film. C'est ça que j'ai, moi, beaucoup aimé quand j'ai lu le scénario, c'est que ce tableau provoque suffisamment d'abord d'ambitions qui sont sans doute pas les bonnes, mais très vite après de l'émerveillement, de l'étonnement, et on dirait qu'il se venge de lui-même, ce tableau, de son destin horrible.
Tout le monde en sort grandi dans le film. Il sort de l'ombre et il passe à la lumière, ce tableau, et cette révélation va révéler chacun finalement dans l'être humain qu'il est, dans la situation qu'il est, dans sa vie personnelle aussi.
Oui, et puis le tableau permet, alors modestement, c'est des petits déplacements chez Bonitzer, c'est pas des gros retournements, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est pas grosse ficelle, mais chacun apprend à redevenir un peu un juste, quoi, au sens, pour faire la métaphore de la
Avec
Deuxième Guerre mondiale.
Une citation et des compliments à Alain Chamfort, que j'ai trouvé
génial, tellement bon, super.
Tellement bon acteur, tellement juste, tellement touchant, Bonitzer sent aussi, et voilà, il est... Nickel.
Parce qu'on en connaît des chanteurs. Non, pardon.
Des acteurs chanteurs qui sont ni bons dans un domaine, ni bons dans l'autre. C'est fou.
Bah, tiens, la semaine prochaine, d'ailleurs.
Alors que lui est bon dans les deux. On en parle jusqu'à midi et demi. Ce film est une réussite. Ouais. Vraiment très, très, très bon film. Très beau film aussi. C'est du cinéma à voir sur grand écran, évidemment, pour avoir toute la beauté, d'ailleurs, de la lumière reconstituée, que ce soit à Mulhouse, dans cette espèce de pavillon, et avec des acteurs.
C'est vrai que la lumière de Mulhouse, faut l'avoir sur grand écran. C'est gâché.
Mais finalement,
je suis d'accord avec Nagui. Ce qu'il en fait est très beau, et d'ailleurs, ça s'éclaire même dans le film. C'est-à-dire que ils arrivent aussi avec leurs a priori. Lui, il est plein de cynisme.
Oui, les gens simples. La phrase est dite, les gens simples, en parlant de
oui,
de ce
il est un peu dédaigneux, ouais. Machin. Et puis, je pense que c'est un personnage, moi, qui... Il est devenu cynique, il ne croit plus en rien, il ne s'émerveille plus de rien. Et c'est là-bas qu'il y a l'émerveillement, c'est là-bas que la lumière se...
Et même au sein de sa propre boîte, hein, il ne croit en rien, pas à la promotion et à sa réussite personnelle aussi. Pierre Millon, signe la lumière et le dire faute de ce film, le tableau volé. On en parle jusqu'à midi et demi avec Alexus, mais d'abord aussi Et je sais que vous, personnellement, vous n'auriez pas abordé le sujet de la même manière.
Pas du tout. Non. C'est pas qu'on le voit, Alexandre. Mais moi, j'aime pas le marché de l'art. Voilà. Il y a que les riches qui peuvent parier. Ça m'intéresse pas. Heureusement qu'on vend pas tout aux enchères comme les tableaux. Hein. Tu devrais te renseigner sur le jour où les milliardaires font leur shopping. Ce serait l'enfer. Non, moi, je vais jamais au Franprix le mardi. C'est le jour où Bernard Arnault fait ses courses. Fait monter le prix des raviolis à 300 000 euros le kilo. Non, merci. C'est quand même un délire, les enchères. Hein. Et tout le monde le fait, mais c'est pas perçu de la même façon, quoi. Quand des blancs gueulent des prix, c'est une salle de vente. Quand les Arabes le font, tout de suite, c'est le souk. Moi, je vais vous dire, je préfère le souk. C'est meilleure ambiance, déjà. Je préfère les épices que les vieilles croûtes. Et aux dernières nouvelles, chez Sotheby's, personne t'appelle gazelle. Mais ça manque. Voilà. Un compliment, ça mange pas de pain. C'est allergique au gluten ou quoi? Le prix de l'art, le prix de l'art, en fait, ça m'écœure un peu, quoi. Je sais pas, les tableaux qui s'envolent à des millions, ça m'écœure un petit peu, et en même temps, ça me rassure. L'argent régit tellement nos vies qu'on le prend méga au sérieux, donc de temps en temps, c'est bien de voir un tableau Picasso qui coûte 800 appartements, si ça te rappelle que, waouh, l'argent n'a aucun sens, en fait. Puis c'est important de jamais objectiver la valeur de l'art, hein. Ce serait horrible si on fixait des tarifs pour les tableaux, comme pour des raviolis ou des vêtements, quoi. Alors, un t-shirt, je comprends. Manche courte, c'est 20 euros. Manche longue, 30 euros. Marcel, prison à vie. C'est moche, les Marcel. Et en plus, apparemment, porter un Marcel, c'est un signe que tu bats ta femme. C'est pas moi qui le dis. Mais... comme 90% des conneries prononcées sur la planète, c'est les Américains. Le terme Marcel, chez eux, ça se dit un wife beater. Qui veut dire littéralement quelqu'un qui bat sa femme. Donc, ils appellent ça un wife beater.
C'est vrai.
C'est pour ça que, dans un tramway nommé Désir, Marlon Brando, il porte un wife beater juste pour signifier qu'il est bien. Voilà. Vous imaginez si on appelait tous les vêtements avec le nom des crimes commis par ceux qui les portent? T'as le malheur d'arriver au bureau avec tes nouvelles lunettes à la monture un peu épaisse. Et voilà, regarde-moi ça, ce connard avec sa paire de pédophiles. Ça pour dire que je comprends les tarifs pour les t-shirts, mais heureusement qu'on fait pas ça pour l'art, qu'on laisse ça aux enchères. Sinon, il y aurait plus le petit monsieur qui dit adjugé, hein, comme votre personnage Alex Lutz. Il y aurait plus la madame dans Affaire conclue. Ne me remerciez pas, Alex. Depuis le temps que vous cherchiez, je vous ai enfin trouvé un point commun avec Sophie d'avant. Voilà. Je sais que c'est plus elle qui présente Affaire conclue, mais moi je parle d'avant. Mais surtout, imaginez la déprime si on fixait des tarifs de l'art. Hein. Ok, une peinture avec du bleu et de la nature, ça vaut 10 000 euros. S'il y a une meuf à poil, 100 000. S'il y a un mec qui la mate, 500 000. Si grâce à l'audio guide, tu remarques que le mec, la moitié basse de son corps, c'est un bouc, en fait, 800 millions. Le chelou, c'est vendeur. Hein. Le meilleur art, c'est quand ça t'excite, mais tu devrais pas. Si on faisait ça, tout le monde finirait par peindre la même chose, réaliser les mêmes films, écrire la même chanson, ce serait horrible. Alors que là, t'as un tableau adjugé à 5 euros, l'autre, c'est le PIB du Qatar. Moi, j'y comprends rien, j'adore ça. Moi, je préfère les choses quand je les comprends pas. Le jour où on m'explique la règle du hors-jeu, j'arrête le foot. Voilà. La seule règle que j'ai comprise quand même sur la vente d'art, c'est qu'un tableau vaut plus si son peintre est mort. Ça, c'est la base. C'est quand même horrible pour les artistes, quoi. Tu sais que le meilleur moyen de donner un coup de boost à ta carrière, c'est de crever, quoi. Ouais. T'es encore en vie, mais t'as aucune ambition, mon pote. Contrairement à moi, je me rends compte que cette chronique est partie dans tous les sens, mais que voulez-vous? Il paraît que le chelou, c'est vendeur.
Merci. Vous êtes le moitié le jeudi.
Exactement, à la Nouvelle Scène, à Paris.
Ça fait penser ce que la vanne que tu as faite au film où il y avait Bouly Lanners qui était un peintre et justement on faisait croire qu'il était mort pour faire monter la valeur de l'œuvre d'art.
Avec McCain, c'est
oui,
ça?
Oui, absolument. Vincent McCain. Pour en revenir à votre film, le film dans lequel vous jouez, Alex Lutz, le tableau volé, c'est vrai que l'émotion, et là aussi on peut penser à Yasmina Reza avec art, l'émotion n'est pas la même devant une toile pour les uns ou pour les autres. Ces gens simples à Mulhouse vivent avec ce tableau qui a subi la poussière, les émanations presque de la suie et du charbon, c'est ça,
ouais,
et
derrière le radiateur.
Qui était à côté, qui devient sale, noirci et sans créer aucune émotion. Et que lorsque les marchands d'art, ou les experts en tout cas, viennent, ils sont pris d'un rire nerveux. Mais ce rire.
Provoque un quiproquo d'ailleurs.
Ce rire nerveux, voilà, qui est mal vécu de la part des propriétaires, mais qui est simplement un côté, c'est incroyable. C'est vraiment
ça
l'original.
Ça n'arrive qu'une fois dans la vie.
C'est ça.
Que c'est arrivé, oui, c'est ce que de Léa Drucker.
Oui, oui, oui. Et elle est belle, d'ailleurs, cette scène où il rigole et les autres se sentent... Mais c'est aussi, comme dans la chronique qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire, c'est tellement versatile la somme d'argent mise dans le marché de l'art et l'émerveillement, comment ça se déplace quand on sait que ça a une cote, quand on n'en a pas.
Ce que je voulais parler, c'est que l'émotion n'est pas la même devant une toile. Deux personnes peuvent être, d'ailleurs, quelle que soit la valeur de la toile, l'une peut être émue et avoir le syndrome de Stendhal et se mettre à pleurer devant un tableau, et l'autre passer sans s'arrêter en se disant ça me fait rien, ça me saoule.
Que ce soit
monochrome ou quelque chose de
bien
beaucoup
sûr.
Plus...
Mais là, c'est Nora Hamzaoui qui nous a raconté une anecdote où sa mère avait retrouvé ou avait trouvé une toile, alors je ne sais pas si elle l'avait trouvée sur un marché ou je ne sais pas quoi. Tout d'un coup, elle était persuadée que ça avait une cote et tout. Donc elle l'adorait. Et Nora le raconte bien mieux, mais elle disait que sa mère disait cette toile me parle. Et puis elle m'émeut. C'est... Enfin bon, voilà, elle en faisait des caisses sur cette toile. Et puis donc elle fait tout ce chemin de l'expertise de cette toile. Qui vaut que dalle. Et puis après, elle ne l'aimait plus du tout. Elle a dit non, mais je ne l'aime pas. Et alors, je le raconte
sans doute. Comme un amant qui l'a déçu, quoi.
Je la raconte sans doute très mal, mais c'est vrai que tout d'un coup, c'est aussi. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant dans le film aussi, quand il y a une cote, et c'est un peu triste, mais quand il y a une cote, alors ça crée une fascination où c'est difficile de garder son goût. Avec cet exercice-là, c'est difficile de regarder une œuvre et se dire attends, alors, est-ce que je l'adore ou c'est parce que je sais qu'elle est phénoménale.
La notoriété, c'est pareil.
Sa notoriété, voilà, c'est exactement la même chose.
Pour un individu, pour vous, j'imagine.
Il y a une forme de notoriété.
S'il y a des gens qui vous regardent,
mais non, mais c'est vrai que ça provoque quelque chose qui change la pupille.
Alors, ce qui se passe en plus, c'est qu'il y a tout le passif de cette toile, c'est-à-dire la manière dont les nazis l'ont prise, l'ont volée, la manière dont cette toile était négligée justement par ces nazis comme étant un art dégénéré, comme l'a rappelé Daniel tout à l'heure, et puis de retrouver les ayants droit, et quelle est la loi, et qui en est réellement propriétaire, et qu'est-ce qui est reversé à celui ou celle qui trouve une toile dans un grenier et qui vaut une fortune, mais il y a quand même des héritiers qui en sont les propriétaires. Enfin, il y a tous ces mécanismes qui rentrent en jeu.
Il y a plein de questions morales qui se mettent aussi sur cette affaire. Et effectivement, bon voilà, art dégénéré, mais c'est bien la saloperie de l'exercice, c'est qu'ils s'en débarrassaient pas comme ça, et que pour ce qui est de cette toile-là, elle était une espèce de monnaie pour des petits collaborateurs locaux. Ça, y en a
pour boire, même vous dites dans le film. Ouais.
Voilà, comme une espèce de pourboire dégueulasse. Et ça, c'est valable dans toutes les pages sombres de cette période-là. Mais évidemment, une fois qu'ils avaient fait leur sale boulot de collaboration ou de dénonciation, je sais pas quoi, ils n'allaient pas à la fin de la guerre dire j'ai une toile, vachement sympa. Donc c'est intéressant parce que c'est dit dans le film, ils se seraient dénoncés. Donc du coup, ça devient une espèce d'objet qui ne peut être qu'un objet de grenier.
Mais ce que je veux dire, c'est que le passif de cette toile fait que le propre patron dans votre boîte ne veut pas.
Du coup, c'est très compliqué à gérer. Je vous parlais de ça parce que c'est très compliqué à gérer légalement. Donc, effectivement, il y a tout le chemin à faire parce qu'il y a une loi sur les œuvres spoliées. Et puis, s'il y a des ayants droit, voilà. En même temps, il y a ce que dit Enora Hamzaoui très justement. Si vous achetez une maison en l'état. Et de bonne foi, normalement, ce qui est dedans
vous appartient.
En fait, s'il y a des ayants droit, et ces objets-là dépendent d'ayants droit, et en plus d'œuvres volées. Et après, c'est tout
et
le chemin. Spoiler
une famille juive qui est aux États-Unis, la loi américaine n'est pas la même.
La loi n'est pas la même. Le marché de l'art se mêle là-dedans, puisqu'en plus, c'est une œuvre majeure. Et il y a juste ce petit gravier posé par le personnage de Nora Hamzaoui qui dit voilà, je sais qu'il n'y a aucun droit, mais mon client l'a obtenu en toute bonne foi. Voilà, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Et mon personnage dit oui, mais enfin en même temps c'est pas les règles, c'est pas les lois, c'est pas les trucs. Et à un moment donné, ça met tout le monde face à ses petites responsabilités pour peut-être faire le bien dans cette histoire. Et ça je trouve c'est toute la deuxième partie comme ça du film que je trouve très très belle. Vers quoi ça s'envole, c'est pas des grands héroïsmes, mais quand même ça répare un peu.
Mais là tout
le
dépend des Américains, c'est eux qui décident de donner ou pas un pourcentage.
Ça dépend vraiment de comment la comment le travail de persuasion à faire auprès de cette famille.
Et puis y a
ça reste un drame aussi pour cette famille. Ouais. Donc ils peuvent
et
se dire
ces jeunes
j'en ai rien à foutre.
Qui traînent leur solitude, leur ennui dans une chambre à jouer à des jeux vidéo, à parler, à écouter de la musique, à fumer de la weed, peu importe en tout cas, mais qui s'ennuient, qui s'embêtent et qui ont une vie extrêmement réglée sur un job de nuit qui ne rapporte pas beaucoup d'argent. Et là, l'inquiétude notamment de celui qui vit seul avec sa mère veuve, si j'ai bonne mémoire, est inquiet du regard de ses potes en disant « si on apprend, et d'ailleurs il le dit, à un moment donné ça peut valoir 10 millions, là le regard des potes change
ouais.
et
d'ailleurs,
ça crée des tensions.
Les moments où il y a des tensions entre ses potes, où tout filet droit, ben les tensions tout d'un coup existent avec ce tableau. Il y a une scène où il se bagarre, où ce tableau est central comme ça, comme témoin de cette espèce de bagarre absurde, juste parce qu'à un moment donné son poste veut juste s'en approcher, mais nous en plus spectateurs on se dit ah, c'est pas vrai, ça vaut de l'argent. Et d'ailleurs c'est fou ce que ça provoque, cette scène.
C'est Arkady Radev qui joue le
Arkady Radev, alors
super
ce mec
bien. Super
ce mec, retenez ce nom, et c'est un immense acteur, un immense jeune acteur, génial,
d'une justesse émouvante.
Ouais. Ah ouais, fou. Et quand il y a cette bagarre, eh ben, moi je me souviens qu'il y avait des projections où les gens, bon ben, ils sont embêtés pour la bagarre, mais tout d'un coup, parce qu'ils savent la valeur de ce tableau, ont peur pour le tableau.
Ouais.
Et c'est quand même fou, parce qu'ils ont peur pour
triste.
Le châssis, ils ont peur pour le machin, alors que les autres, ils se battent comme des lynx. Il y en a peut-être un qui va se prendre une chaise dans la gueule. Et tout le monde se... Et je me souviens,
oui,
dans les
pardon,
projections, les gens, des fois, je dis, oh là là, attends, s'ils le font.
On peut avoir, alors pardon, Alex.
C'est génial.
On peut avoir peur pour le tableau, parce qu'on peut avoir peur aussi pour ce qui pourrait être une très bonne nouvelle.
Pour lui. Ça mélange tous les sentiments.
En disant, il risque de perdre des millions, simplement parce qu'il se bat avec un pote devant et qu'il va déchirer le tableau.
Et que si ça se trouve, il va déchirer le tableau.
Et que c'est la chance de sa vie qui peut aussi s'évaporer. Là aussi, il y a une autre intrigue.
Il y a une autre intrigue. Il y a le refus d'obstacle du personnage que joue Arkady, où lui dit mais si ce tableau ça a été ce destin, ben moi j'en veux pas. J'en veux pas de ce truc-là. Donc lui, il est une âme, une pureté absolue. Et en même temps, c'est le chemin aussi que lui va devoir faire en se disant allez, c'est pas grave, il y a pas d'argent sale, ça va faire du bien à une famille, tu vas réparer quelque chose, et non, ça sera pas de l'argent maudit. C'est aussi cette notion d'argent maudit, parfois, dans des endroits où tellement mal privilégiés que ça devient un risque, un danger, et que ce qui pourrait améliorer sa vie, même là, ça continue à faire peur. Voilà.
Alex Lutz avec Léa Drucker, Nora Hamzaoui, Louise Chevillotte et donc cet acteur dont on va retenir le nom, Arkady Radev, et ce jeune acteur aussi que l'on découvre dans le film, Alain Chamfort.
Qui était formidable dans Don Juan, qui est sorti il y a un an et demi.
Ah, je l'avais pas vu. Mais moi, il m'a bluffé dans ce tableau volé, en tout cas. Il joue extrêmement bien. Signé Pascal Bonitzer. Ça faisait longtemps que j'avais pas retrouvé un film de Pascal Bonitzer avec autant de plaisir et autant de bonheur. En tout cas, c'est une réussite et c'est demain au cinéma. Voici Camille Lava.
Bonjour tout le monde.
Salut Camille.
Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'amitié entre garçons. En effet, samedi soir, mon copain et moi étions à Roubaix pour l'anniversaire de son meilleur ami, Kevin. Alors, ça n'a rien à voir avec ce dont je vais vous parler, mais je précise que Kevin est indien et donc ne s'appelle pas vraiment Kevin, mais Calabassine, prénom que ses parents ont transformé en Kevin à leur arrivée en France pour faciliter son intégration à Roubaix. Et même si ce serait très tentant de faire des blagues sur un Kevin indien du Nord-Pas-de-Calais, j'en ferais évidemment rien du tout. Nous arrivons donc chez Kevin, et après l'avoir félicité pour son nouveau tuk-tuk avec aileron arrière, mon copain se jette dans ses bras et lui dit « Mais comme t'es beau mon kéké, avec ton petit débardeur de beau gosse là, mais ça te va trop bien !» Et là, instantanément, une voix dans l'assistance s'élève et hurle « Ouais, ça va, on vous dérange pas trop les pédés ?» Mais alors pourquoi ? Pourquoi cette pulsion homophobe ? Pourquoi cette peur panique chez les mecs hétéros de toute marque d'affection de la part d'un individu du même sexe ? Mais vous croyez quoi, les gars ? Que si vous répétez cardigan 3 fois d'affilée, j'arrive à apparaître derrière vous ? C'est quand même dingue à quel point la masculinité toxique bousille tout. Parce qu'on entend souvent que l'amitié fille-garçon est compliquée, mais l'amitié garçon-garçon l'est encore plus. Parce que nous, les filles, faire des câlins et des compliments à nos amis, c'est 30 à 40% de notre temps éveillé. Okay, c'est vrai, moi je suis tout le temps là, oh, t'es un sublime Margot, t'es rayonnante meuf. Attends, c'est quoi ce boule ma Alex? Mais ça te réussit grave au pilates. Même ce matin, en arrivant, j'étais là, oh là là, ce blush, ça te fait un glow, mais juste incroyable. Et ses cheveux, mais je tuerais pour avoir les mêmes en fait. Mais pourquoi tu me parles en même temps que moi? Quoi? Bah c'est pas cool, je suis en train de te faire un compliment. Ah non, pardon, c'est un miroir. Mais vous imaginez un mec qui complimente son pote en lui disant que son jean lui fait un super cul. Ouais. En revanche, messieurs, quand vous commentez les meufs entre vous, c'est quand même extraordinaire. Hein, on dirait que vous êtes sur le front ukrainien, quoi. Ah, c'est une bombe, c'est un missile, c'est un avion de chasse. Ah ben de rien, Zelensky. Et quand il s'agit de passer à l'action, là, on bascule direct chez Ikea. Je vais la démonter, je vais la déboîter, je vais l'encastrer, je vais lui déposer la hotte et lui faire refaire le plan de travail. Et le phénomène est encore plus évident sur les réseaux sociaux. Moi, par exemple, quand je lâche souvent des coms gentils sous les photos de mes copines, quoi. Hein, que ce soit les selfies Tanga Sunset de Lisa, les selfies Tanga Sunrise de Mello, ou les selfies Squat Workout de Leïla. Oui, pour ceux qui ne savent pas, alors Leïla a un compte secondaire dédié à sa fitness routine pour obtenir un fessier de rêve en moins de 30 jours. Leïla Kadour, Bouti Défi. Vous verrez, c'est que de la contre-plongée. Mais voilà. Vous, messieurs, j'ai l'impression que vous auriez du mal à juste écrire « c'est beau » sous le post Instagram de votre copain Mathieu en maillot de bain. Oui. Mais sachez que cette masculinité toxique, c'est aussi vous qu'elle écorche. Et qu'on est très nombreuses à penser qu'un mec qui n'a pas peur de montrer l'affection qu'il a pour ses potes, c'est incroyablement viril et sexy, et donc attirant. Alors si vous voulez que les meufs vous câlinent, n'hésitez pas à câliner vos potes. Vous verrez que les câlins entre copains, c'est comme les moules au curry. De loin, ça a l'air dégueulasse, mais quand on les sait, on peut plus s'en passer.
Camille là-bas
sur scène quelque part.
Sur scène un jour peut-être.
Ah d'accord.
À 20h.
Bon, tous les soirs de juin à l'Olympia, voilà.
Ouais, tout est complet.
À suivre, David Zivi, responsable de la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoilés entre 1933 et 1945, puisque sans mauvais jeu de mots, c'est la toile de fond quand même de ce film, Le Tableau Volé, film de Pascal Bonisère dont on va parler jusqu'à 12h30. Mais d'abord, la musique, le thème déjà du film. Très feutré, très chic. Il est d'une froideur et d'une sévérité, votre personnage, qui fait peur. On l'aime pas beaucoup au début, hein, quand même.
Non.
Il parle mal.
Il parle mal. Il a...
Ça fait penser à la série Succession. Je sais pas si vous l'avez vu cette
série. Oui, un petit peu. Mais c'est des personnages intéressants à faire, quoi. Ou des personnages qui se. Dont les masques tombent aussi, mais c'est intéressant par rapport à la chronique. Je rebondis. Il est dans un marché devenu cruel, horriblement compétitif, plein de costumes gris et de bonhommes et de performances. Il a perdu un émerveillement. Sans doute de Ghost qui a aimé l'art au départ.
Ouais, mais il n'aime pas spécialement les gens de sa boîte, il n'aime pas.
Il s'ennuie. En tout cas, il est dans une période où il s'ennuie.
Voilà,
je pense que ce personnage était. Parce qu'on le voit un peu, il a des petites ironies, des petites salves, une écriture de Pascal Bounidier qui est quand même super. Et je pense que ce mec devait être un peu ironique, un peu. Voilà. Et si on ne fait pas gaffe, l'ironie, ça devient du. Ça devient du sarcasme, ça devient du cynisme, et ça devient du pas sympa.
Il en parle à un moment. Il parle de son enfance, il parle de tout ce qui était autour de lui.
C'est intéressant.
De Xonru Longemer, je fais vraiment un mea culpa, parce que je sais que les gens de Xonru Longemer qui ont vu le film étaient choqués, parce que dans le film, je dis Xonru Longemer, en plus, c'était une idée de moi. Puisque mes beaux-parents sont des Vosges, et je l'ai mal dit dans le film, et on ne l'a pas repiqué en post-synchro. Et je sais que ça a fait une petite Louise Michelade là-bas, donc je m'excuse infiniment.
Il va falloir y aller en projo spécial.
Xonru Longemer, il vient de là-bas, effectivement. Lui aussi, d'un tout petit milieu. Et il s'est construit, comme on se construit dans ces cas-là pour... pas forcément dans ces cas-là, d'ailleurs, pour y arriver, mais pas forcément avec... peut-être trop d'armes aussi. Donc quand on arrive trop armé, ben
il a un rapport avec les femmes assez particulier, que ce soit le mâle alpha dominant avec Louise Chevillotte, ou au contraire, il retombe presque en enfance. C'est peut-être pas le meilleur terme.
En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il apprendra à devoir se débrouiller tout seul. Oui. Ce que je trouve assez important, moi. Et j'aurais pas voulu justement qu'avec le film, et on en avait parlé avec Pascal. Je voulais pas, moi j'ai refusé, mais alors des cas de fer, une quelconque ambiguïté avec le personnage de Louise. Il est sévère avec elle, il est en même temps sur des choses où il lui dit des choses quand même essentielles aussi sur son métier, c'est-à-dire que voilà, de bien faire son métier. Alors, il n'a pas la manière de lui dire, il ne s'y prend pas bien, il s'y prend de manière, effectivement, un peu plus que maladroite. Ouais. Mais en même temps...
Elle n'est pas très conciliante non plus.
Elle n'est pas très conciliante non plus. Elle lui fout bien dans la tronche à un moment donné.
Qu'est-ce qu'elle joue bien aussi.
Formidable, ouais. Louise Chevillotte. Et effectivement, dans un truc un peu de... Avec son ex-femme, jouée par Léa Drucker, génial aussi... Ben voilà, il est tombé dans tous les panneaux que les femmes s'occupent de lui. Il n'a pas besoin que les femmes s'occupent de lui, et c'est très bien.
Et Léa Drucker, elle a fait deux pas de côté. Elle a beaucoup plus de recul que lui, d'abord sur leur propre métier, mais y compris sur tous les rapports humains. Elle est presque là pour faire la traduction, l'interprétation, l'analyse de votre personnage auprès des autres, pour dire il n'est pas comme ça.
Elle le connaît sans doute bien mieux, bien par cœur. Elle connaît ses zones d'ombre et
elle est maternante avec lui.
Ah, puis elle l'aime toujours.
En tout cas, je pense qu'ils s'aiment toujours. Ouais. En tout cas, ils sont très très amis. Et ce chemin va aussi lui apprendre à montrer un peu d'émotion et de faiblesse, et que c'est pas bien grave dans la vie, tant mieux.
On va pas dévoiler ni divulgacher l'un des climax justement de l'amour vu par le personnage de Léa Drucker et son évolution dans le film. Il y a un vrai moment où on fait waouh, ça je ne m'attendais pas à ça, et ça fonctionne. Le tableau volé signé Pascal Bonizère, c'est demain au cinéma, et David Zivi dans quelques instants à ce micro. Mais d'abord, la musique dans votre vie, Alex Lutz. On va commencer en 78.
Allô, maman, bobo. Maman, comment
histoire d'un mec en pleine forme.
Histoire vraie.
De quoi?
Histoire vraie d'Alain Souchon. Il était au ski, il s'est fait mal au genou et son premier réflexe a été d'appeler sa maman, disons. Alors qu'il était adulte. Il était adulte en disant: maman, je me suis fait mal au ski. Histoire vraie. Sauf que là, on est vraiment à la naissance d'Alex.
Absolument. Quand vous parlez de votre enfance, vous dites bourgeoisie, classe moyenne des années 80. On fait du tennis, mais on a une Peugeot 106. C'est comme ça que vous résumez un peu, vous posez le cadre.
En même temps, Peugeot était partenaire de Roland Garros.
Oui. Des parents. De génération de 68 qui a dans les années 80 pu développer un peu son les codes des années, les codes un peu des années 80.
Maman prof,
papa dans les assurances, feu papa que j'embrasse là-haut, et voilà.
Pas mal de femmes,
pourquoi?
Pour être entouré de femmes. Caractère bien trempé, vous dites. Pas mal de femmes. Non, je ne parle pas de votre tableau de chasse, mais de l'entourage. Vous parlez de votre grand-mère, beaucoup.
Ma grand-mère, beaucoup. Ouais. Ma maman, mes deux sœurs.
Vos sœurs.
La personne qui s'occupait de moi, qui me cherchait à l'école.
Enfant importante. Moyen à l'école, vous dites.
Moyen, c'est vraiment sympa.
Ouais, mais parce que c'est dur en fait, l'échec scolaire.
L'expression de ma mère la plus récurrente était ton foutu dossier scolaire. Ça vous donne une idée de mon niveau à l'école. Ouais.
Et elle s'inquiétait, elle disait qu'est-ce qu'on va faire de toi?
Pas du tout. Non, elle me disait tout le temps ce foutu dossier scolaire, tu verras ce foutu dossier scolaire. Et elle a eu raison. Parce que au moment du bac, où je crois que j'ai eu 9,75, les 0,25, ils ne les ont pas donnés. Et elle m'a dit, ça tu vois, c'est ton dossier scolaire. Elle avait raison. Elle avait raison.
Là, j'ai vu vous avez la musique.
Là, j'ai vu Catherine, là.
Ouais, c'est je peux te dire que le dossier scolaire... Elle avait vraiment raison. Mais en même temps, elle s'est battue comme un tigre, comme une tigresse, pour que ça avance, que les profs voient aussi que j'avais un côté plutôt artistique et qu'il fallait... le laisser quand même un peu s'épanouir.
Vous le viviez comment? Parce que vous dites dans les interviews que l'année que vous avez préférée, c'est l'année où vous avez tout raté.
J'ai tout raté. J'ai raté le BEPC, j'ai raté ma troisième, j'ai raté la piscine, j'ai raté le piano, j'ai raté tout ce qui était ratable.
L'équitation.
Alors qu'est-ce qu'on fait pour pas rater sa vie?
Je me souviens d'une conversation de ma maman, je pense pas qu'elle s'en souvient. Elle était avec mon beau-père dans sa chambre, ils étaient au lit en train de lire, je pense le soir ou je sais pas quoi. Et moi, j'ai juste entendu, parce que j'avais tout raté, je crois, on va quand même dire oui pour la mobilette, je crois qu'il essaye de nous dire quelque chose. Et je trouve ça super mignon. Et donc, effectivement, j'ai eu cette mobilette, et ça a été...
C'était mieux à l'école après ?
Ah ouais, tellement... Bah, en tout cas, oui, plus on m'a donné de la liberté, mieux ça allait. Ouais.
Rassurer les parents, voilà, rassurer les parents qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas rater sa vie quand on donne le sentiment de tout rater quand on est ado ?
Bah surtout que c'est pas grave, c'est pas si grave, je trouve. Moi je milite pas tellement, je suis pas un... mais c'est vrai que les je trouve qu'on est dur avec les jeunes, quoi. On est vraiment pas sympa en ce moment avec les jeunes, et puis on se rend pas compte, on n'arrête pas de leur dire que tout est noir, que tout est dramatique, que pile ils perdent, face ils gagnent pas. Pendant le Covid, je nous trouvais exécrables avec eux, exécrables. Je nous trouve pas encourageants, alors qu'ils sont super, ils sont bagarreurs, ils ont des idées, ils sont brillants. On n'arrête pas de dire bêtement qu'ils sont collés sur leurs écrans, alors qu'ils y font des trucs super, que nous, on n'arrive pas à s'en sortir avec nos trucs. Voilà, faut juste leur faire confiance, leur dire tout ira bien, surtout leur prendre la main, c'est bien la moindre des choses, de regarder le nombril et de nous occuper d'eux. Ils sont super, non ?
En 96, Alex Lutz, vous écoutiez...
Oui, mais j'avais plus trop d'idées. Mais ça, j'ai plus tout d'un coup, on a une espèce de sensation gangsta qui me ressemble pas du tout, en fait. Mais...
Ouais,
on se dit
gangsta.
Wow,
non, c'est pas. On va se calmer. On va se calmer. C'est gangsta chic. Hein.
Gangsta chic.
C'est l'orinil. Mais... C'est l'orinil.
Ouais,
ça va.
Ouais. Pas bien.
Non, pas bien.
Pas bien. Loupé. Non. Le prof de techno qui essaye de mettre un baggy. Ouais, mais j'écoutais ça, quand même.
Et à cette époque-là, c'est le coup de la pomme.
Ouais.
C'est votre compagnie que vous créez.
Théâtre.
Vous montez plein de spectacles avec cette compagnie, une façon quoi de se dire que vous êtes aux commandes.
Alors attendez, il y a mon producteur qui vient de m'envoyer un texto. Bah alors, qu'est-ce que j'ai encore pas bien fait sur cette... Non, c'est Xonru Longemé. Grand Dieu. Alors,
vous l'avez bien prononcé dans
le film. Fait Xonru Longemer, c'était ça. Et dans le film, j'ai dit Longemer. Bon, flûte. La prochaine fois, je dirai Épinal dans le film. Et je suis désolé.
Donc, double excuse aux habitants. Qu'on appelle comment d'ailleurs les habitants de.
Les Longemarins.
Oh là là. Oui, on va chercher le gentilé.
En tout cas, ça me fait de la peine. Je leur ai fait de la peine. Bon, et alors, du coup, nous.
On monte sa compagnie parce qu'on.
On monte sa compagnie,
Théâtre. Voilà, parce qu'on veut être.
T'es pas obligé de lui parler comme ça,
non. Parce que
je voulais.
Alors,
comment ça se passe?
Et on passe du gangster en honneur.
Eh ben, j'ai fait. Oui, pour être autonome, pour faire mes trucs, pour. C'était super. Comme ça, je faisais mes affiches, j'écrivais mes spectacles,
Mais ça, c'est parce que personne ne vous proposait quelque chose qui vous intéressait, que finalement devient autonome. Oui, non, mais on se dit, je vais le faire moi directement. Plutôt que d'attendre quelqu'un.
Ouais, c'était. Je me disais, oh là là. Je voulais faire ce métier. Et je voulais que ce soit un métier. Donc je me disais, il faut quand même que je gagne des sous avec ce truc. Bon, vu mon parcours scolaire, je m'étais un peu dit la même chose sur les grandes écoles de théâtre. J'y allais pas avec beaucoup la win, je crois. Mais je me dépatouillais bien en pondant mes propres œufs.
Donc on pense à quoi? Au stand-up aussi, en disant je peux faire
non,
un seul
en scène? Non, là c'était vraiment du théâtre contemporain, du Beckett, du Brecht, des machins.
Non, mais
j'ai adoré
vous
ça.
Vous avez glissé vers le one-man.
Et après, oui, j'ai découvert par des potes que je salue, Sébastien Bisotto, qui est à Strasbourg, qui m'avait engagé pour faire mettre en scène son... Il avait un duo d'humour. Et il m'avait demandé de les mettre en scène. Et c'est comme ça que je suis un peu allé plus vers le café de théâtre par la suite.
Ouais. En 2009...
Non, oui, mais je voulais donner un côté un peu strict à cette...
C'est réussi, ouais.
Cette carte
d'identité. On est à ça du trafic de drogue, hein, il y a un moment. C'est...
Wow.
Eminem dans les oreilles d'Alex Lutz.
Ah ouais, je faisais du roller dans Paris et je mettais ça.
Yes.
Et je mettais ça dans mes oreilles très fort et j'aimais bien.
Et vous incarnez à cette époque-là au cinéma le fils d'un nazi. Dans OSS 117, Rio ne répond plus de l'excellent Michel Hazanavicius, avec Jean Dujardin, bien sûr.
Jean-François Alain, la signature.
Ouais, Jean-François Alain, la signature, absolument, avec un rôle. Je sais pas, quand on est comédien, tomber sur un rôle comme ça.
Bah, j'y croyais pas.
C'est vrai.
Il m'avait vu à la télé, c'est Jean Dujardin qui m'avait vu à la télé dans un sketch, et il m'avait appelé, et je croyais que c'était une blague. Et
il vous a dit, t'as une tête de nazi.
Non, mais il m'avait parlé du film, et puis il m'avait dit, en revanche, voilà, c'est juste, mais je lui dois pour toujours, hein. Mais c'est un
petit rôle,
un pass pour faire les essais déjà, donc ça c'était génial. Et puis j'ai fait les essais et c'est un souvenir émerveillé et trouillard, parce que c'était mon premier rôle au cinéma, donc j'avais très très peur, et en même temps ils étaient super bienveillants, et c'est un souvenir. Et puis il a été un peu marquant, Heinrich Heinposti.
À fond. Donc, voilà. À fond.
En 2019,
c'est notre chanson, mon cœur, qui nous rend un bonheur.
On revient un peu plus sur mon univers musical.
C'est notre chanson, mon cœur.
Faut vous expliquer.
C'est la chanson de Guy Jamais, qui n'existe pas, mais que j'ai créé. C'est le film Guy, voilà, qui est l'histoire d'un chanteur de 75 ans que j'ai eu la chance de m'écrire, hein, finalement.
Ouais. Qui a eu du succès dans les années 70 et que l'on retrouve.
C'est comme un faux documentaire. Le film est comme un faux documentaire
génial,
sur lui. Et partant du principe que celui qui le filme a peut-être eu l'information par sa mère qui est décédée que peut-être ce chanteur populaire serait éventuellement son père. Et sa mère avait inscrit dans le courrier qu'elle voulait pas qu'il en fasse. Mais il se dit, après tout, je suis éditorialiste, j'ai bien le droit d'en faire un documentaire. Donc il fait un documentaire sur ce potentiel père et c'est un beau film, je crois.
Vous avez quand même chanté à Bercy, non ?
J'ai fait la première partie de M, parce que M adore le film. Et il m'a dit, tiens, tu veux pas faire la première partie en Guy et tout. Alors j'ai dit d'accord, c'était trop bien. On a fait comme un faux téléphone où il demande à Guy s'il veut bien. Ça c'était super, parce que dans le coup de téléphone, je fais allô en Guy, et il répond, oui, c'est Mathieu. Et puis je dis juste, c'est Chédid, le fils, tais-toi, parce qu'il parle à sa femme. Et puis il accepte Bercy, et là les lumières s'allumaient, et c'était Guy Jamais sur scène. Mais pendant les répétitions, j'avais pas compris que Bercy c'était 15 000 personnes.
Ah oui.
Donc pendant les répétitions, de temps en temps, je faisais des pains, et mon guitariste Vincent Blanchard me dit, on va moins rigoler devant 15 000 personnes la semaine prochaine.
Je fais 15 000, n'importe quoi.
Et moi,
c'était 17 000.
Et moi j'étais sûr que c'était.
Ouais,
en fait, c'est plusieurs villages.
Surtout les concerts de M.
Ouais. Mais c'était fou!
Tellement dingue!
Mais c'est un très, 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 très beau souvenir.
Et puis vous êtes récompensé du César du meilleur acteur.
Et lui de la musique.
Lui de la musique, vous remportez le prix Lumière. Enfin, ça a été un film qui a été.
Vraiment marquant.
Qui a été aimé.
Vraiment
très
chouette.
Très aimé, ouais.
Un beau chemin pour ce film.
On passe en deux. Enfin, on passe rien du tout.
Ça va, Maggie? Tu as un petit café?
J'avais encore envie d'entendre de la street.
Ah, d'accord.
De la street.
Mais non. Oh, demandez-moi, je suis un vrai jukebox.
Ce soir dans Planète Rap, Alexis, l'invité de Fred.
Ça serait vraiment rigolo.
Ça serait bon, Fred, bizarre.
Je vais appeler Fred.
On va présenter ça.
Je vais appeler Fred, je vais lui demander.
Ah bah ouais.
David Zivi nous a rejoint. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes responsable de la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 33...
Spoliés, parce que spoilés, on est sur...
C'est vrai,
c'est gâché. Spoliés,
tu as raison, Ouais. Entre 33 et 45, vous pouvez nous dire exactement en quoi consiste votre mission? C'est un travail d'enquête?
Oui, bonjour. Donc c'est un service du ministère de la Culture, il faut le préciser. Et nous sommes chargés d'essayer de répondre à des demandes de familles qui continuent d'arriver, qui cherchent des informations sur ce qui est arrivé à leurs aïeux, avec des œuvres qui ont disparu, qui ne sont pas localisées. Et nous travaillons aussi avec les musées, les bibliothèques, sur des œuvres qui sont dans les collections publiques et dont nous essayons de comprendre l'historique, le parcours, la provenance, pour peut-être identifier parmi elles des œuvres spoliées qui n'auraient pas dû entrer dans les collections et que l'on va pouvoir restituer.
C'est passionnant, c'est de l'enquête en permanence.
Ouais,
vous utilisez quel genre d'informations pour essayer de répondre aux questions qu'on vous pose ?
Alors, diverses informations, évidemment. Il y a un certain nombre d'archives. Dans certains cas, les pillages faits par les nazis ont laissé des archives. Dans certains cas, ils archivaient, ils inventoriaient ce qu'ils volaient et avec de très bons inventaires, de très bonnes photographies. Parfois, il n'y a rien. Parfois, il n'y a rien. Et donc, on essaye de comprendre ce qu'avaient les gens avant la guerre. Donc, on va aller chercher, par exemple, des catalogues de vente aux enchères avant-guerre pour voir si l'œuvre est passée sur le marché. Ensuite, si on a de la chance, on va la trouver. On va essayer de retrouver le procès-verbal de la vente publique, qui est normalement une archive publique qui doit être déposée dans un centre d'archives, pour voir qui est l'acheteur. Et donc, si on a un nom d'acheteur dans les années 30, c'est peut-être le nom du propriétaire en 1940 qui sera peut-être spolié plus tard. Donc, voilà. Et parfois, on bloque. Parfois, on manque d'informations.
Comme le dit Léa, c'est une enquête. Vous avez quel moyen pour faire ce genre d'enquête? C'est simplement... C'est pas que les moteurs de recherche.
Les archives.
C'est les moyens des chercheurs qui sont à la fois des spécialistes de l'histoire de cette période, des historiens de l'art, des spécialistes des archives. Et on essaye de faire feu de tout bois de toutes les archives possibles. Il y a quand même un certain nombre d'archives, notamment les déclarations qu'ont faites les familles après la guerre, quand elles en ont fait. Tout le monde n'en a pas fait. Il y a des gens qui ont évidemment qui ne sont pas revenus, qui ont été assassinés, mais certains ont fait des demandes. Donc on a la mémoire de l'époque, de l'immédiat après-guerre. On a l'histoire des œuvres, et il y a quand même un certain nombre d'œuvres qui sont publiées. Le tableau du film, il était tout à fait connu. Il avait été exposé avant-guerre, il avait disparu, et le personnage joué par Alex Lutz le dit à un moment. On ne l'avait jamais vu depuis juste l'avant-guerre. Et donc, dans ce genre de cas, on a des traces, on sait ce qui s'est passé, donc on peut le reconnaître. Après, parfois, on n'a pas de photographie des œuvres, on sait à peine qui étaient les propriétaires, et donc on est...
Si c'est dans des collections privées...
Juste, ouais. Si j'ai le droit, je recherchais, mais on parlait
le nom de la ville
des femmes, non, importantes. Il y a Rose Vallant.
Ah oui.
Voilà. Et qui était qui travaillait au musée du Jeu de Paume, et qui a travaillé avec le directeur du Louvre, et même avant la guerre, ils ont déjà commencé, parce que ça sentait le roussi, à inventarier toutes ses œuvres. Elle a fait un boulot incroyable. Elle ressemblait pas à grand chose. Elle était tout le temps derrière ces capots allemands qui allaient faire leur marché. Et elle notait tout. Et il y a un livre magnifique qui s'appelle Je vais le retrouver. Et après, voilà, l'espionne à l'œuvre, Rose Vallant, l'espionne à l'œuvre. Et c'est passionnant sur un trajet de femme. Et sur comment elle s'est bien dépatouillée. C'était une première monument girl, en fait.
On parle de combien d'œuvres d'art qui ont été...
Alors, on retient en général le nombre de 100 000 œuvres d'art volées en France uniquement, mais c'est sans doute sous-estimé. Surtout, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les œuvres d'art. Les œuvres d'art, tout le monde n'en a pas, évidemment. Il y a 5 millions au moins, on est dans le flou complet de livres volés. 5 millions de livres, et puis le mobilier. C'est-à-dire que la spoliation, c'est d'abord autre chose. C'est le mobilier courant, c'est les chaises, les tables, les lits. Il y a 70 000 logements habités par des juifs qui avaient été soit arrêtés, soit qui avaient fui, qui ont été vidés de fond en comble en France. Presque 40 000 à Paris. Et donc ça, évidemment, ça ne se retrouve pas. Enfin, on ne va pas retrouver
quelle est la nuance entre la spoliation et le vol?
Alors, la spoliation, aujourd'hui, c'est le terme un peu générique, qui recouvre des réalités assez différentes, en effet. Il y a le vol, le pillage très organisé, qui obéit aussi...
Le cambriolage, on va dire, basique.
Le cambriolage, ou le cambriolage très organisé par des services spécialisés allemands qui interviennent dès le début de l'occupation à Paris, en juin 40. Ensuite, il y a ce qui est plus de l'ordre de la confiscation suivie d'une vente. C'est ce qu'appelaient les nazis et le gouvernement de Vichy l'arianisation. Donc, on confisque, on vend, évidemment pas au profit du propriétaire, mais au profit de l'État. Et puis, il y a toutes ces transactions un peu pas claires, vente forcée de la personne qui a besoin de vendre pour fuir, pour avoir un peu d'argent. Et donc ça ne laisse pas de traces. Les premiers exemples peuvent laisser des traces, la vente forcée beaucoup moins.
Mais la valeur de ces toiles n'existe que si elle est mise sur le marché, si elle est dans un salon, une maison.
Collection privée.
Ouais, une collection privée. Comment savoir que ça vaut et où c'est?
Alors, la question de la valeur, c'est importante. Là, dans le film, on parle de ce Schiele qui n'a pas de valeur, qui a une valeur immense, justement, financière. Ces œuvres ne sont pas toutes des chefs-d'œuvre. Et le travail de recherche est tout aussi important pour des œuvres d'artistes qui n'ont pas une cote importante aujourd'hui, aussi importante que pour des œuvres de très grande valeur. Donc, je crois qu'il faut bien avoir ça aussi en tête. Et d'ailleurs, le travail que nous menons, que mènent les musées, que mènent des chercheurs indépendants.
Donc, il y a un devoir de mémoire, entre guillemets, quelle que soit la valeur, de restituer à ceux qui en sont.
pense que ces œuvres sont des traces de ce qu'avaient des gens qui ont été pourchassés, qui ont été persécutés. Elles sont les témoins de ces derniers temps. Elles ont été vues, elles ont été choisies, elles ont été appréciées par ces personnes-là qui ont maintenant toutes disparu. Et donc ça, c'est une trace. Donc certaines ont une grande valeur et d'autres n'en ont pas. Mais le moment de la restitution, quand on peut y arriver, est tout aussi important. Et d'ailleurs, on le voit avec des livres qui ne valent en soi pas grand-chose. Ce ne sont pas des livres précieux, c'est des livres des années 30. Mais le moment de cette restitution, quand on récupère quelque chose de son grand-père ou de son arrière-grand-père, c'est important.
Alors, comment le récupérer, entre guillemets, quand quelqu'un vous dit « Non, non, c'est chez moi, ça a toujours été là, ce meuble, cette toile, ces livres, et qu'un enquêteur ou vos services disent « Mais non, on est dans le domaine de la spoliation, il faut restituer ces objets ».
Alors ça se passe différemment dans l'histoire, dans le film, vous l'avez rappelé, vous l'avez dit tout à l'heure.
Le jeune est très intelligent.
Très très bien,
voilà.
Et c'est quand même assez rare que ça se passe aussi bien, que le propriétaire d'aujourd'hui dise tout de suite « Non, je n'en veux pas, je ne veux pas de ça sur les mains ». C'est vrai que souvent, il y a des gens qui ont acheté, il y a 5 ans, 15 ans, 30 ans, une œuvre, ils sont personnellement de bonne foi, et on vient leur dire qu'ils devraient le restituer. Et donc, ça, parfois, il y a des discussions entre la famille spoliée et le propriétaire actuel. Parfois, ça se passe assez mal. Et parfois, il y a des contentieux, parce qu'il y a en effet une loi qui protège les familles spoliées. Mais il faut aller devant le juge, et il faut que faire reconnaître par un juge en France, la spoliation, et ça annule la propriété, toutes les transactions qui se sont produites depuis la guerre. Donc, on vous annule la propriété et vous devez restituer sans compensation. C'est assez protecteur en France, ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays, on n'a pas l'équivalent. Et si l'œuvre est dans une collection publique, je parle depuis aussi le ministère, aujourd'hui, et depuis plusieurs années, il y a cette aussi volonté de restituer, donc l'État ou les collectivités territoriales restituent régulièrement, pas assez sans doute encore, mais des œuvres qui étaient entrées dans les collections et qui n'auraient pas dû entrer dans les collections.
Par exemple, la Joconde, elle va rester en France ou elle va retourner en Italie?
Mais non, pas mais que sur cette page de l'histoire d'ailleurs, c'est-à-dire que ça se travaille aussi sur des pages de l'histoire plus...
plus anciennes d'ailleurs, on parle beaucoup des colonisations, de la colonisation.
Et puis c'est la Grèce et l'Angleterre aussi, avec les
Parthénons. C'est en effet des questions très très complexes et quand même assez différentes, c'est-à-dire que les circonstances historiques...
Et très politiques maintenant.
Très politiques aussi, les circonstances historiques sont très différentes. Dans notre cas, nous rendons à des familles, ce qui est assez différent, tandis que dans les cas, le cas de l'Afrique, il y a eu des restitutions au Bénin, on rend à des États, donc c'est aussi des relations différentes. Donc on avance en effet sur ces différents chemins en parallèle, avec, en prenant en compte les circonstances différentes aussi de l'histoire.
Merci David Zivi, responsable de la mission de la recherche de la restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 45. Merci beaucoup David. Voici Mélodie Fontaine. Ça va, Mélodie ?
Oh, ça va très bien. J'étais peu vêtue dans ma cuisine.
Ah bon ?
Oui, je découpais sensuellement une échalote en discutant avec mon mec. Je lui disais que j'adorais l'échalote, ce petit légume bulbeux qu'on peut mettre à toutes les sauces. Ah, oh, j'en suis friande. Quoi ? Oui, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, ça nous arrive de parler de petits légumes bulbeux. Oh, je vais te l'éplucher, ton échalote. Oh, je vais te couper la tige. Ah oui, je vais te tailler la pulpe. T'aimes ça quand je te pèle le bulbe, hein?
Oh, ça va pas.
Oh, le bel oignon. Maman, viens. Ah, j'avais zappé ma fille de 5 ans qui mangeait ses gnocchis derrière nous. Oui, mes chéris. Et là, de but en blanc, comme les enfants savent le faire. Maman, pourquoi les filles, elles ont des zézettes et les garçons des zizi? Alors là, le cerveau, c'est vice-versa. Hein. C'est tout le monde court dans tous les sens, c'est Pompéi, là. Panique à bord, donc ça répond comme ça peut. Hein. Écoute, maman, elle est fatiguée, d'accord? Elle répète un texte, elle doit écrire une chronique. En plus, elle doit changer la couche d'un vieux monsieur avec qui elle travaille. Pourquoi le vieux monsieur, il a des couches et pas les bébés qui ont des couches? C'est une autre question, ma chérie. C'est que le monsieur, il est âgé et que les personnes âgées font leurs besoins quand ça leur chante. On croise juste les doigts pour que ce soit pas pendant l'émission. Donc, les zizi et les zézettes. Alors, quand les hommes ont commencé à marcher, je suis pas super précise avec les chiffres, hein, mais je dirais 1 ou 2 millions d'années, ils partaient à la cueillette, tu vois, et à cette époque, personne n'avait de zizi. Là, il y en a un qui ramasse des baies, des quacoubées, hein, pour parler de mariage. Et soudain, il y a une espèce de bestiole de l'espace, je te dis pas le nom parce que ça n'existe plus aujourd'hui, heureusement, mais ça a des petites pinces, tu vois, et elle commence à tirer sur les lévrioles. Mange tes brocolis. C'est quoi des lévrioles? Des lévrioles, chérie? Bon, tu vois les trucs rouges en dessous des becs des poules, là? Bon, t'imagines ça dans ta culotte, d'accord? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Une poule, c'est un zizi? Non, une poule, ça a pas pas Zizi, c'est les coqs qui a une grosse... Bon, bref. Le scarabée nidosaure, là, il tire sur les lévrioles et vlan, le hasard, encore lui, un coup de vent. Et là, comme quand tu bailles, le truc, il reste comme ça. Tu vois, un petit bout de chair qui pendouille. Tu prends du fromage ou pas? Bien sûr que tu peux prendre du fromage, mais arrête de me couper tout le temps, on dirait Nagui, après je perds le fil, c'est suffisamment compliqué. Donc, voilà, ceux qui sont allés à la cueillette, ils ont eu un zizi, et celles qui sont restées au chaud dans la grotte, ils dessinaient sur les murs et elles ont gardé leurs zézettes. Mais dessine pas sur les murs, hein, c'est très assez clair pour toi? Et ça vient d'où les deux boules? Les deux boules, tu demandes à ton père. Et le père, qui observait la scène de loin, qui arrive avec son classique, tu sais, Einstein disait que c'est pas compliqué. Si t'arrives pas à expliquer un concept à un enfant, c'est que tu l'as pas vraiment compris. Papa, ça vient d'où les boules? Alors, les boules. Écoute, quand tu pars en vacances, tu prends un sac ou des valises. Et ben, bon, allez, ça suffit. Finis tes kiwis. Bon, pour ma part, j'ai pas su expliquer le pourquoi du comment de notre appareil reproducteur, mais ma tomate échalote était exquise. Je m'en suis léché les babines, mais pas les lévrioles.
Merci. Question soupeuse. Mélodie Fontaine.
Sur scène, en tout cas, elle sera au Festival d'Avignon du 3 au 21 juillet prochain.
Et à au ça, point virgule, c'est ça, hein?
Oui.
Au point virgule, et elle travaille avec Thibaut Séguin qui a coécrit avec moi Guy. Donc elle est formidable, moi, je dis.
Quelle belle promo.
Il y a de la ref. Le tableau volé avec Alex Lutz, Léa Drucker, Nora Hamzaoui, Louise Chevillotte, c'est au cinéma. Le film de Pascal Bonitzer. Vous l'avez tourné quand, d'ailleurs, ce film?
83. Je l'ai tourné.
Il n'y a pas si longtemps.
Non, parce qu'il y a généralement. L'année dernière, quoi, disons. Enfin, une grosse année. Enfin, le temps que ça soit,
okay, soit cuit. C'est plus trop, quoi.
Non, je sais plus trop.
Il est perdu. Arkady Radef étant ce jeune. Radef. Il y a Laurence Scott aussi, que j'ai oublié de citer.
Dans les films de Rivette, elle est formidable dans ce film.
Alain Chamfort, Marisa Borini, Mathieu Lucie, Iliès Kadri, Vincent Nemeth, Alexandre Steiger, Doug Gurand, Peter Bonk, Adrien Devanne sont entre autres dans la liste de ce casting. Le film sort demain au cinéma avec évidemment Léa Drucker, Nora Hamzaoui en plus. Tanguy Pastureau, de quoi veux-tu nous parler?
Je veux parler d'une farine bio vendue en Bretagne et rappelée parce qu'elle contient du datura. C'est un hallucinogène extrêmement puissant. Donc, sympa. Grosse ambiance dans le Finistère actuellement.
On en parle après.
C'est des bonnes crêpes.
La bande originale avec Linda Kadoboudadi, avec Mélodie Fontaine, avec Lisa Demoitier, avec Camille Lavard. J'adore ce regard, Lisa. Avec Tanguy Pastureau, Daniel Morin et notre invité Alex Lutz. Nous évoquons le film Le Tableau Volé, où vous jouez de la guitare.
Ah bon? Ah bon, comment ça?
Si, il n'y a pas un moment...
Non, c'est moi, je crois pas.
C'est pas lui.
C'est le fils qui appréhende la corrida.
Oui, je joue.
Non, c'est vrai. Non, c'est ça.
Et de la harpe.
C'est la corrida. C'est la scène où la maman veut absolument qu'il joue la corrida et où lui est gêné en disant « Non, pas là ». Vous êtes aux côtés de Léa Drucker, Nora Hamzaoui et Louise Chevillotte. Alex, juste comment décririez-vous le parcours de Louise Chevillotte, cette jeune fille qui vient juste pour un stage, qui est totalement dominée par votre personnage et qui va prendre de plus en plus de responsabilité ou d'autonomie.
Bah surtout qu'elle va réussir à suffisamment retourner la situation pour ce qui a été peut-être des défauts mal gérés pour elle servent ce qu'il faut pour ce tableau et puis remettre ce patron à sa juste place.
Dans un milieu de mal dominant quand même. Hein,
oui. Et puis un personnage qui a mal vécu quelque chose avec son père, avec le chemin professionnel et difficile de son père et qui a choisi. Alors c'est comme une protection, le mensonge comme protection pour se protéger. Mais
et qui va lui servir de leçon, et c'est comme ça qu'elle va aussi décortiquer une situation.
Qui va quand même lui servir de leçon, et en même temps, je trouve que ce qu'elle a fait de très fort, Louise, c'est qu'on est tout de suite en empathie avec ce personnage. Elle en a pas fait quelqu'un où on se dit elle est folle alliée. On voit qu'il y a un problème.
Il y a un petit côté mytho qui est gênant quand même au début.
Oui. Ce que j'ai adoré dans ce que fait ce que j'adore dans ce qu'écrit Pascal, c'est qu'il ne justifie pas comment sont les personnages. Il les amène. Il se trouve que voilà, il la voulait comme ça. elle arrive, on voit qu'elle est menteuse et c'est ça qui nous dérange. Mais comme dans la vie, ça nous dérange et puis après on décortique, quoi. On n'a pas tous les trucs avant. Mmh.
Et le rapport qu'elle a avec son père, joué par Alain Chamfort, là aussi.
On découvre aussi, voilà, dans sa relation à Alain Chamfort, que c'est bouleversant et que ça explique aussi plein de choses de cette jeune fille qui tâche de se protéger.
Ils ont tous un point commun quand même, hein, que ce soit votre personnage, celui de Nora Mzaoui, de Louise ou de Léa Drucker. Au niveau de la vie privée, on ne peut pas dire qu'ils soient...
Que c'est la Winas.
Non.
Ils se cherchent un peu, quoi.
Pas génial, quoi. Parce que quoi, ils sacrifient tout pour leur boulot.
Bah, ça dit aussi un truc...
Ça bosse H24.
Oui, mais c'est aussi un truc de... Ça dit modestement, sans en faire des... Un pamphlet, mais ça dit des choses de l'époque aussi.
Ouais, l'air du temps.
L'urgence tout le temps, la performance tout le temps, la peur, tout peut faire peur. Donc voilà, c'est des personnages qui, du coup, ils sont en peine.
C'est intéressant parce que c'est autant une description justement très, très humaine qu'il y a dans ce film signé Pascal Bonitzer. Et les dialogues sont bien ficelés, le rythme,
dialogue,
est là.
Ouais.
Et puis c'est un vrai, il y a une sorte de thriller, même si on imagine quelle pourrait être la fin, puisqu'encore une fois c'est un fait réel, donc on se dit il va pas tordre le cou non plus à la réalité, il s'est appuyé dessus pour en faire une fiction, mais il y a quand même cette espèce de suspense avec comment vont-ils les uns comme les autres
c'est
s'en
plutôt
sortir.
Comment ils vont s'en sortir, bon, individuellement et tout ça, et comment autour de cette œuvre ils vont parvenir à ce que effectivement, comme vous le dites, on devine l'issue, quoi, mais c'est comment dans cet univers, dans ce marché de l'art, dans les maisons de vente, comment ils vont décroter tout ça.
Ouais, quoi, voilà. Dans une comédie romantique, on sait que les deux vont finir ensemble, ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas quand même pour voir comment
exactement.
Ils vont y arriver. On est d'accord. Récemment, il l'a déclaré...
Pardon, je suis parti tout seul.
Mais depuis... J'aime bien le pardon, je suis parti tout seul. C'était toi, t'as pas reconnu ta voix ?
Ah d'accord.
Je suis parti tout seul.
Ouais, okay. C'est ça.
Et puis des archives comme ça.
Ben oui.
Des trucs qui viennent de se passer.
Ma souris portable.
Ok, pourquoi pas.
Voici Tanguy Fassion.
Ce week-end, quand j'ai joué en Bretagne, je voyais bien que les gens avaient l'air bizarres. Je veux dire, plus que d'habitude. Mais je mettais ça sur le compte de ma propre bizarrerie. Je sais jamais si c'est moi qui suis décalé ou si le monde est aberrant. Et hier, alors que je faisais mon footing au Bois de Boulogne, je croise Daniel Morin. Je lui dis, que fais-tu là, Père Foura? Et où as-tu mis tes habits? Le rouge lui monte aux joues et le contraste avec son corps blanchâtre fait qu'il se met à ressembler à un malabar bigou. Je m'approche de lui avec la ferme intention de le mâcher. Lorsqu'il se met à hurler, non, mais ma tête est partie en sucette, maître. C'est pour ça que je déambule nu dans le bois. Il montre une pièce de 2 euros et ajoute, quand j'ai quand même gagné ça cet après-midi en vendant mon corps. Je réponds, c'est pas cher payé. Il me dit, non, mais c'est tout ce qu'il y avait sur elle, c'est 15 charmantes personnes. Et là, je me dis, c'est étrange que Daniel soit devenu à moitié fou, parce que la sagesse de ce vieil homme devrait le préserver de la MST et des fougères. Je lui demande ce qu'il a mangé au déjeuner et il me dit, des crêpes, parce que vous êtes mon modèle et qu'ainsi je vénère tout ce qui a trait à la Bretagne. J'ai une croix celtique tatouée sur la fesse. Il se retourne, c'est vrai. Après avoir indiqué à Daniel que la croix celtique est aussi utilisée comme signe de ralliement par les mouvements d'extrême droite les plus radicaux, voilà. Ce à quoi il répond, oui, et je me connecte sur le net, je tape crêpe, tombe sur un site de fétichistes brestois qui se roulent dans des crêpes géantes avec des porcs entiers censés incarner le rôle du larbre. Puis sur un site d'info, je vois qu'il y a un rappel de farine bretonne bio contaminée au datura, plante décrite par Drogue Info Service comme hallucinogène très puissant et toxique. Je regarde Daniel, il est en train de faire le poirier tout nu, ce qui fait que son sexe le recoupe jusqu'au bas du visage parce qu'il a un sexe extrêmement long. En fait, j'en sais rien, voilà, mais je me moque trop de lui, donc pour compenser, parfois je glisse une contre-vérité afin de restaurer sa légende, quoi. Hein, s'il peut conclure grâce à ça avec 2-3 vendeurs de double décimètre, bon, moi, je serais content. Alors, le datura, c'est costaud. Le petit nom de cette plante, c'est l'herbe du diable. Voilà, donc on sait qu'on n'est pas sur un plant de ciboulette pour relever la salade de ta mère. Les symptômes, sécheresse de la bouche, comme vous, Nagui, quand vous avez fini de poser une question à votre invité, un seul laps de temps que les fabricants de montres appellent le tour du cadran. Et aussi, pupille dilatée, trouble de la vue, rien que sur le Finistère à Flelou a fait un chiffre de plus 400%, tachycardie, bon. Agitation, confusion, nous ça on connaît, parce qu'on reçoit pas mal de comédiens et d'actrices ici. Et enfin, le datura provoque des hallucinations. C'est que devant le JT, on se met à voir l'ayatollah Khamenei portant sur le dos le drapeau américain, on tape sur son fils en hurlant, purée, ils sont gros, cette année les moustiques tigres. Bref, quand on ingère du datura, il n'y a rien qui va. Et tiens, ça pourrait faire un bon slogan de pub si on se met en vente dans les bureaux de tabac. Je vais faire fortune. Bon, tout ça pour vous dire que dans les 4 départements bretons a été vendue de la farine contenant du datura, ce qui potentiellement peut changer l'ambiance dans les crêperies. Si quand vous y allez, il y a des petits couples assis à table qui se regardent trop intensément en parcourant de la langue le rebord de leur bolet de cidre, bon classique. Ouais. C'est normal. Si ces mêmes couples se crachent le cidre au visage en hurlant qu'ils sont des putains de lamas, c'est que dans la pâte, il y avait de la farine contaminée. Alors pour les bretons qui nous écoutent, la farine psychédélique est de la marque JP Cloto. Numéro de lot 2A, date limite de consommation, mars 2025. Les autres farines sont normales. Si malgré tout, vous avez un comportement erratique, que vous racontez n'importe quoi, attention, il se peut que vous soyez juste complètement con. Non mais faites attention, parce que parfois on confond les deux. En soirée, quelqu'un vous dit un truc, vous répondez arrête, Sylvain, t'es bourré. Et là, il vous dit pas du tout, j'ai bu un iced tea. Parce que l'être humain, globalement, n'a pas un niveau plus. Hein, c'est-à-dire, tu remplis pas un stade sur de la pop urbaine vocodée avec des cadors, quoi. Mais le problème avec cette farine, c'est qu'elle est bio. Donc, je veux dire, s'il y a tromperie, là, vous allez dans le petit magasin éthique, acheter du thé indien, du gingembre équitable, des petits Montessori, c'est comme les petits écoliers, mais quand tu vis dans le 11e. Vous faites tout bien pour avoir la vie la plus nickel possible. Tourcoing, Marseille, vous le faites à vélo. Un jour, vous faites des crêpes et paf, farine datura, toute la petite famille défoncée. Venez dans le rayon des t-shirts petit bateau en criant à la dame que du convoi bleu, détends-toi, la schtroumpfette. Mais le datura, cette plante à la con, peut ravager tout l'ouest de la France en 14 jours, Nagui. On va voir Nolwenn Leroy errer dans les rues de Rennes en faisant du tam-tam sur des canettes de 8-6. Et en fait, au-delà du datura, mais les plantes, c'est de la saloperie. Wow. À part le maïs, parce que sans, on n'aura plus de popcorn. C'est-à-dire qu'en cas de débat, Mathilde Panot, Jordan Bardella sur BFM, on ne saura pas quoi bouffer. Bon, je vois deux solutions au problème. Soit on arrache l'ensemble des plantes de la nature. Non. Et on fait de la France un immense parking de magasins Jiffy, bon, ce qu'elle est déjà. Soit on fait ingérer à Fidel Turner tout le datura du monde, ce qui changera rien à son comportement habituel. En attendant, méfiez-vous des crêpes, ma suggestion, même à Douard Denet, partez sur les tacos. À la sardine, si vous voulez, flambez aux chouchènes, mais tacos. Hier, j'ai dit ça à Daniel, qui broutait dans le bois de Boulogne, qui pensait de la sauge, bon, en réalité, un préservatif usagé, comme il y en a des milliers dans ce lieu de perdition. Nagui.
Délicieux.
Et comme vous le dites souvent, Nagui, les plantes, il vaut mieux les sécher et les rouler que les avoir dans la farine. Dans l'eau 2A, faites attention à vous, les Bretons, dans cette région, je fais complet à chaque fois. Vraiment, j'ai pas envie de vous perdre, quoi.
Merci, Tanguy.
Tanguy Pastureau, qui est aussi sur scène, pas juste au Bois de Boulogne. Il sera à Nancy le 25 février prochain, salle Poirel.
Je suis sûr qu'il y en a qui ont noté la référence de la farine pour évidemment pour essayer. La goûter.
Il faut, c'est très toxique en réalité.
Ouais, ouais, mais il y a des fous.
Mais comment elle s'est retrouvée là-dedans, cette
En fait, ça pousse au milieu du blé noir. Ah. Voilà, ça se mélange et quand on récolte le blé noir, bah, pour faire les.
Mais on se régale.
Mais donc, bah, naturellement, qu'elle est devenue dangereuse.
Naturellement, oui, oui.
Ouais, non, c'est pas un pesticide quelconque ou un produit chimique qui est venu.
Il y a aussi des feuilles de coca.
Il y a plein de trucs hallucinogènes.
C'est naturel.
Ouais. Il y a beaucoup de choses hallucinogènes.
C'est ce qu'ils ont dit au juge.
C'est bien de parler de cette expérience que.
Non, mais pas moi.
Non, d'accord.
Mais pas de mal, arrêtez de me faire une réputation d'alcoolique.
C'est pas une réputation, ouais. C'est un documentaire.
Mangez-moi sur les champignons.
Non, mais toi, t'avais déjà eu ce problème.
Monsieur de particulier.
Oui, t'avais fait une tentative.
Oui, t'avais
une expérience.
Non, mais dis-le.
Non, j'avais acheté un truc que je pensais être du CBD qui était en fait du HHC qui depuis est interdit, mais c'est du cannabis de synthèse. En fait, c'est des gummies et effectivement, j'en ai avalé 4 en me disant ça fait rien
mal,
du tout.
Ça t'a déchiré.
Ah, bah, j'ai fini aux urgences, oui,
bien sûr. Ouais, c'est ça. Non, mais faut
dire. Ça fait rien du tout. Mais t'es sorti la semaine dernière.
Ça me fait rien, genre.
Ouais. Et là, je crois qu'il va essayer un salon de massage.
Non, là,
il a pas mangé. Ok, très proche.
On en parlera plus tard.
Jeudi, peut-être.
Dans la semaine, jeudi, ok, si tu veux. Alex Lutz au cinéma dans ce film réussi qui s'appelle Le tableau volé, signé Pascal Bonitzer. D'autres événements culturels, oui. Leïla. Le film sort demain.
On va en Floride, aux États-Unis, dans un musée consacré à un seul artiste. Et à l'occasion du 120e anniversaire de cet homme, vous allez pouvoir faire quelque chose de particulier avec lui.
120e ? Donc c'est pas Warhol, c'est pas...
Non.
Il est mort en 89.
C'est un auteur,
artiste. J'ai pas bien écouté.
Ouais, alors je répète, on est en Floride aux États-Unis, il y a un musée qui est consacré à un seul artiste.
D'accord.
À l'occasion du 120e anniversaire de cet artiste-là, vous allez pouvoir faire quelque chose de particulier avec lui. Alors le nom de l'artiste, au fond, je peux vous le donner. Il est mort en 89, on le connaît tous, il est espagnol.
Miro.
C'est l'autre.
Dali.
Absolument, c'est Dali. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec Dali en Floride ?
Floride.
La Floride n'a pas beaucoup d'intérêt. Dans
bon,
ce musée-là.
Dali non plus.
Non, mais je veux dire, non, parce qu'elle s'accroche à Floride.
Ouais. Ok, on va pouvoir.
On va rentrer dans ses toiles.
Pas dans ses toiles.
S'intégrer. C'est être non, soi-même.
C'est sculpture, rentrer dans les sculptures.
Non, être,
rentrer,
être un modèle.
Ouais. Pas être un modèle.
Porter sa moustache.
Non, quelque chose d'encore plus fou. Qu'est-ce qu'on pourrait rêver de faire avec Dali éventuellement?
L'amour.
Danser.
Un peu moins fou.
Dialoguer. Discuter avec lui.
Absolument. Vous allez pouvoir.
Je suis hyperboliquement fou.
Voilà, c'est ça. Grâce à l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir échanger.
Elle est déjà artificielle.
Elle est artificielle. Avec Dali, à partir. Mais j'essaie de finir ma phrase. À partir de documents d'archives, tu vas tout seul. Avec des documents d'archives et des audios, en fait, ils ont fait travailler la voix de Dali. Et alors, c'est intéressant parce que je ne sais pas si vous voyez le téléphone aphrodisiaque. C'est ce téléphone avec dessus une sorte de homard en termes de combiné qui a donné lieu à la robe homard ensuite créée par Dali. Et bien, dans cette.
Il fait plein de trucs comme ça, mais un peu plus pervers aussi. Ouais. La commode où qui était je crois qu'il y avait des tiroirs à la place des seins et à la place du sexe aussi.
Du sexe féminin, peut-être.
Et puis là,
les
pendules molles.
Mais là, c'est dans une réplique en fait de ce téléphone aphrodisiaque qui est une superbe œuvre. Allez voir, elle a été créée en 36. Et dans cette œuvre-là, vous allez pouvoir dialoguer avec Dali. Je sais que vous foutez de ma gueule. Mais peu importe, c'est super cette œuvre.
Superbe œuvre.
Ah, beuvre.
Oui, beuverie, c'est un mélange entre œuvre et beuverie.
Superbe œuvre.
Et après, c'est nous qui faisons ta réputation.
Tout ça pour vous demander. Merci beaucoup, Lisa. Pour vous demander. Alex, vous, avec quelle voix vous aimeriez dialoguer? Une voix qui n'est plus.
Ah non, je me fantasme pas du tout, ça. Non, non.
Rencontrer un artiste, rencontrer un Charlie Chaplin, par exemple.
Bah oui, enfin, rencontrer non, c'est vrai, mais le truc de l'intelligence artificielle, je trouve ça super, ceci dit. Enfin,
mais si vous aviez la magie de discuter directement avec quelqu'un qui n'est plus.
La magie?
Ouais.
Discuter à... oui, Charlie Chaplin, ça serait pas mal.
Ça vous irait bien, en tout cas.
Ou on parle de peinture et des peintres, Hopper, Vermeer, tout ça, j'aimerais bien.
Qu'est-ce que vous leur demanderiez?
Des tuyaux.
Des tuyaux pour peindre.
Non, mais je trouve ça.
Vous dessinez extrêmement bien.
Je peins et je dessine. Voilà. Alors, oui, ceux-là, je leur poserai des questions. Mais je comprendrais rien, ce serait du vieux français, du.
Non mais non, la magie fait que vous allez vous comprendre.
Est-ce qu'il y a des toiles qui ne vous touchent absolument pas? Parce qu'on parle beaucoup de l'émotion, on parle beaucoup de ce que l'on peut.
Non mais alors je me rends quand même compte que souvent quand il y a des maîtres même où on se dit oh là là bon. Quand on est devant l'œuvre, non mais ça arrive, ça.
J'aime bien cette phrase.
Et on est devant l'œuvre et on comprend mieux pourquoi c'est quand même. Moi, par exemple, Dali, j'en suis pas dingue. Et c'est vrai que il y a des tableaux. Il y a un tableau où il y a le visage démesuré de sa femme, comme ça, qui est posé comme dans une espèce de décor presque de cauchemar, comme ça, son visage immense fait presque de manière hyper réaliste. Et elle est hypnotique, l'œuvre. Quand on est devant, elle est hypnotique, on peut pas décrocher. Même si on n'aime pas.
C'est les pendules. Alors, ça s'appelle pas d'ailleurs les pendules.
Les pendules,
ça
t'emmerde. Les
montres qui coulent.
Montre.
L'écoulement.
Non, l'écoulement du temps, je crois, un truc comme ça. Ouais.
Et les montres flasques.
Ça t'aime pas. Moi, j'adore.
Non, je te demande, tu aimes bien.
J'adore. Moi, ça m'a. Ouais, ça m'a.
Mais en tout cas, voilà, j'adore être troublé ou dérangé par une œuvre.
Et vous allez souvent dans les musées?
Ben j'essaye. J'étais au Louvre. Il y a un truc où on peut être donateur, bon donateur, sympa donateur.
Les amis du Louvre.
Les amis du Louvre. Et j'étais là-bas. Et j'y suis. Et donc c'est chouette. Mais j'aimerais y aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais à chaque fois le monde bloque quoi quand même un petit peu. Ouais.
Une autre question.
On cherche un acteur qui pourrait incarner prochainement un mythe sous la direction d'un réalisateur avec qui il a déjà travaillé 7 fois.
DiCaprio?
Absolument, DiCaprio pour incarner avec Scorsese, bien entendu. Et il pourrait incarner qui d'après
Dali.
Vous? Pas Dali. Un grand chanteur.
Oui,
Elvis.
Oui.
Non.
Ah non, c'est déjà.
Un grand chanteur. Et si je vous dis Ava Gardner? Absolument.
C'est
en projet. Il faut simplement avoir l'aval quand même de la fille de Sinatra. Non, la petite fille de Sinatra, Tina
Dolores.
Sinatra. Qui est Dolores, c'est sa sœur, sa cousine, qui doit quand même valider cette possibilité de laisser faire une sorte de biopic sur Frank Sinatra par Martin Scorsese. Ouais,
avec sa part d'ombre quand même, parce que Sinatra,
Mafia. Alors comment Scorsese va le traiter?
Vous n'avez pas vu The Offer? Ah, c'est génial. Ouais, c'est une série qui parle du making of du Parrain, en fait, et où Sinatra était déjà visé dans le Parrain.
C'est Johnny Fontaine dans le
Parrain. Exactement. Et où Sinatra avait demandé à la mafia d'intervenir pour empêcher la production du Parrain. Regardez cette série The Offer, c'est sur Canal. Non, mais c'est absolument génial.
En regardant votre filmographie, Alex Lutz, j'ai eu la sensation.
Le cinéma, vraiment.
Je me suis dit, tiens, ouais,
je me suis demandé. En regardant votre filmographie, Alex Lutz, je peux me tromper, mais j'ai eu l'impression que vous n'avez jamais tourné deux ou trois fois avec un même réalisateur.
Si, Quentin Reynaud.
Combien de fois? Deux fois. Voilà. Ouais, c'est votre max.
Oui, mais j'ai pas fait. Enfin, on dirait, j'ai pas fait beaucoup de films. Hein,
bah, quand même.
Non, pas tellement.
Non.
Non.
Enfin, là, je comprends la question de Leïla. Est-ce que ça veut dire que vous voulez de la diversité et vous voulez
Moi, j'adore avoir à chaque fois un nouvel objet à défendre. Mais
vous faites du cinéma depuis.
Non, c'est vrai, Gaspard Noé. Je rêverais de faire 36 000 films avec lui tellement j'ai trouvé cette expérience.
Vortex.
Folle. Ouais. Ça dépend. Et Quentin Reynaud, je le suivrai au bout du monde aussi. Vraiment.
Parce que j'adore, vous réalisez, vous aimez bien avoir des fidèles aussi autour de vous.
Oui, non, mais c'est agréable, le côté familial et un peu troupe, des troupes qu'on retrouve aussi. Donc,
Et devenir une sorte de muse pour un réalisateur, en tout cas d'artiste fétiche, parce que c'est comme ça que ça s'inscrit avec Leonardo DiCaprio et Scorsese.
C'est Leonardo DiCaprio, comment voulez-vous ? C'est comme si on me demandait... Enfin,
mais non, mais c'est comme si on parlait
d'un truc de caviar avec une échoppe locale.
Il y a plein d'actrices, par exemple, qui sont des fétiches. Regardez.
DiCaprio, Scorsese. Je peux pas du tout dire. Ouais, je me dis oui.
Alors prenons en France, prenons Christophe Honoré, par exemple. La collaboration qu'il mène
J'adorerais,
avec,
si ça s'inscrit dans. Il y a des. Je vous dis, Gaspard, ça m'a tellement plu, intrigué. J'ai trouvé ce personnage. On parlait de dérangement. On aime, on n'aime pas, mais ça se traduit pas par aimer ou pas aimer. C'est des objets filmiques non identifiés qui laissent pas indifférents et tout ça. Ça, c'est si on peut s'inscrire dans cette familiarité-là, c'est génial. Ouais.
Ouais. L'avenir en tant que réalisateur, ça sera l'adaptation de Connemara.
Connemara.
Nicolas Mathieu.
De Nicolas Mathieu, oui, tout à fait. Ça sera à la rentrée. C'est pas du bois, ce truc.
Si,
c'est un peu de bois. En tout cas, c'est motif bois. Ouais. Mais je touche ma tête. Oui.
Vous
ça
en
sera
êtes
tout
dans le process.
On a fini d'écrire. C'est dans les tuyaux pour le monter et tout ça. Et on a notre casting, mais je vous le dirai pas tout de suite.
D'accord, mais qui joue ?
Non, pas tout de suite.
Non, mais
pour jouer le joueur de hockey, là, Christophe,
je l'ai et j'ai Hélène. Mais je ne vous le dirai pas tout de suite. Parce que
ils ont à peu près quel âge ?
Ils ont l'âge des rôles.
Oui, mais parfois.
Une petite quarantaine. Vous allez faire des devinettes comme vous avec la petite musique, c'est ça ?
Évidemment.
Mauvaise
réponse.
Non, je ne le dis pas tout de suite.
On m'a dit que vous étiez gentil.
Ça n'a rien à voir avec la gentillesse. C'est que. Non, on va bientôt le dire.
Ok. Ouais, mais à quelqu'un d'autre. Pas nous.
Je vous enverrai un texto à vous si vous voulez, vous le direz.
Ça sortira quand ?
Attends, promesse ou pas ?
Tu veux que je le dise à toi d'abord avant l'annonce ?
Qu'on soit les premiers.
Oui, je pense que c'est jouable ça.
Okay.
Mais tu vois, une heure avant quoi.
Oui, comme ça.
Juste pour le plaisir.
On accueille telle actrice, au fait, rien à voir. J'ai le casting.
Non, juste pour dire Alexus, vous avez promis, voilà le casting.
Il nous fait confiance.
Oui, si vous voulez, oui, d'accord.
Tu viens pas pleurer.
Là, t'as vu la voix aiguë.
Il a menti.
Oh le menteur.
C'est un menteur. C'est un mensonge.
Oui, j'ai envie d'un rapport de confiance. Mais oui,
écoute, ouais, d'accord.
Oh là là.
Vous jouerez au Cirque d'hiver, ça sera du 18 au 27 avril en 2025, votre nouveau spectacle.
Vous pouvez jouer ici avant.
Je viendrai juste là.
Dont le titre est
J'ai pas de titre.
D'accord.
Mais peut-être ça s'appellera...
Est-ce qu'il y a un cheval ?
Il y aura de nouveau les chevaux, et ça s'appellera peut-être la balade de Vincent Météor. Mais c'est pas sûr.
Très bien. Dans Ça c'est Paris de Marc Fitoussi, on vous retrouvera également pour
c'est une super série sur l'univers du cabaret, ouais.
Ça passera sur France 2.
Ouais, c'est la même équipe qui a fait 10%. Et c'est une belle série sur un cabaret
que mon personnage voulait vendre, et puis finalement il s'y réattache, et puis tous ensemble ils essayent de le remettre d'aplomb.
C'est et très, vous très chouette. Jouez, vous incarnez Pierre Berger dans la série Becoming Karl Lagerfeld, diffusée sur Disney+, ça commence là début juin.
Ça va être en juin, début juin, ouais.
Exactement. Des excuses à présenter, Daniel Morat.
Désolé pour Laetitia Gaillet, qui n'était pas habituée, n'étant pas habituée à ce que Nagui lui rende l'antenne avant 12h07 pour le flash de midi, n'était pas prête. Quand Nagui a rendu à l'heure, vous voudrez donc excuser notre journaliste star d'avoir commencé son flash avec du sandwich oreillette au niveau des molaires. Désolé pour tous les puristes de la langue française qui ont sursauté quand ils ont entendu notre invité évoquer la winas. Alors, j'ai vérifié, les amis, vous avez raison, ça n'existe pas, le mot winas, mais n'oubliez pas qu'elle est clute, c'est un bad boy, un gangsta, hein, qui rappe plus vite qu'Eminem, qui zouk mieux que Francky Vincent. Il a le droit d'inventer des mots, comme Leïla avec sa dernière trouvaille, la beuvre. Désolé pour tous les parents qui ce matin ont entendu notre invité dire « Oh, on est méchants avec les jeunes, hein, ils sont super les gosses, hein, faut leur foutre la paix ». Parents qui n'en peuvent plus de leur ado, qui après cette émission ont pris la confiance et qui du coup balancent toute la journée « C'est bon, lâchez-moi, Alex Lutz, il a dit foutez-nous la paix, Alex Lutz, il a tout raté ado, il est au top aujourd'hui, papa tu lâches Gradzilla, maman tu me rends mon joint ». Désolé enfin pour tous les fans romantiques d'Alex Lutz qui pensaient à tort que leur idole était fan de musique un peu cucu. Ben non, il l'a dit, c'est un bad boy. Ce week-end d'ailleurs, si vous êtes du côté de New York, il participe à un battle dans une prison du Bronx.
On passe par toutes les émotions dans le tableau volé. Il y a de la tension, du suspense, il y a une part de comédie romantique et du rire. On passe par toutes les émotions comme lorsqu'on est devant une toile ou devant plusieurs toiles. Le tableau volé, à partir d'une histoire vraie, une fiction signée Pascal Bonitzer avec, entre autres, Alex Lutz, Léa Drucker, Louise Chevillotte et ce gamin dont on reparlera qui joue le rôle de celui qui a la toile en ne sachant pas la valeur qu'elle porte. Il s'appelle Arkady Radev. Merci beaucoup d'être venu, Alex.
Merci à vous.
Et encore bravo.
C'est toujours super. Demain. Et je vous dirai ça alors en premier, d'accord.
Super.
Demain, nous repasserons une heure et demie en compagnie de Raphaël pour son nouvel album. Et tout de suite, c'est Dorothée Barba. Bonjour.
Ah,
Dorothée.
J'ai cru Dorothée.
Salut Dorothée.
Oui, c'est aussi Dorothée. Bonjour.
Bonjour. Tout le monde. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
Dans les carnets de campagne, on est en Alsace cette semaine. Et je vous parle d'un endroit signalé par plein de messages d'auditeurs et d'auditrices. C'est donc incontournable. Ça s'appelle L'Or du Commun et c'est près de Colmar. Voilà le programme. Salut. À demain.
Bonne émission. Ciao. Ciao.